Encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d'environnement, promouvoir le développement durable dans le sport, lutter contre les discriminations, assurer une égalité homme-femme, autant de valeurs affichées dans le premier chapitre de la charte olympique qui définit les principes fondamentaux des Jeux olympiques. À quelques mois des JO, parlons-en. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes ravis de relancer la saison de Penser les luttes. Moi, c'est Marie de Radio Parleur et nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes.
Bien sûr que c'est difficile et que je vous rassure, on aura bien la grève SNCF à Noël, on aura bien tout ça. Comme d'hab, on aura tous les trucs qui sont relous en fin d'année.
Si ces conditions ne sont pas au rendez-vous, oui, il pourrait y avoir des grèves.
Penser les luttes avec Radio Parleur.
Pourquoi vous faites grève? Parce qu'on joue notre peau tous les jours. Parce que nous n'avons assez de ce mépris de classe. Et parce qu'on demande notre dû.
C'est ça mes camarades.
Pensez les luttes, votre podcast mensuel de Radio Parleur pour vivre ensemble les mouvements sociaux.
Dans ce premier épisode de l'année, nous recevons Jade Lingard, journaliste à Mediapart et autrice de l'ouvrage Paris 2024, une ville face à la violence olympique, disponible aux éditions Divergence le 26 janvier. Bonjour, comment ça va?
Bonjour, bah ça va bien, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Merci d'être avec nous au studio. Et avec elle, nous recevons Pierre de Saccage 2024, qui est un collectif d'habitants habitantes de Saint-Denis qui s'oppose au saccage écologique et sociaux que provoquent les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Comment allez-vous?
Comme un début d'année olympique.
Dans cet épisode, nous reviendrons sur l'histoire de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, sur les problématiques sociales et économiques posées par l'événement. Et nous terminerons sur une grande question. Aujourd'hui, à quoi ça sert de se mobiliser contre les Jeux et comment? Penser les luttes, c'est reparti.
Un contenu Radio Parleur. Retrouvez nos émissions, entretiens et reportages sur votre plateforme préférée de podcast.
Jade Lingard et Pierre de Saccage 2024, merci d'être avec nous en studio à Radio Parleur. Alors Paris était la dernière ville candidate aux Jeux Olympiques et c'était la seule. La population n'a pas été consultée avant de confirmer l'organisation des Jeux à Paris. Peut-on parler d'une absence de processus démocratique, Jade Lingard?
C'est complètement une absence de processus démocratique, c'est-à-dire que non seulement personne n'a été consulté, on a demandé l'avis à aucune habitante, habitant de Paris et des villes de Seine-Saint-Denis où vont se dérouler les Jeux, mais même encore pire que ça, d'une certaine manière, dans le dossier de candidature de Paris pour les JO de 2024, un des critères mis en avant par la candidature de Paris était de dire qu'il n'y aura pas de référendum et donc aucune contestation ne sera possible par les habitants si les JO sont accordés à Paris. C'est dire à quel point ça va loin, en fait, la négation de la consultation des populations sur ces JO. Et c'est un fait d'autant plus notable que dans les années qui ont précédé la candidature de Paris, donc Paris a obtenu, entre guillemets, l'organisation des Jeux d'été de 2024 en 2017, dans ce moment-là, on est dans un moment où il y a toute une série de villes qui voulaient se porter candidate ou qui avaient envisagé de se porter candidate et qui petit à petit se sont retirés, ont retiré leur candidature suite soit à des mobilisations massives comme à Boston aux États-Unis, soit à des référendums qui se sont tenus en Italie, en Allemagne. Donc on était dans un moment vraiment de contestation pour dire différentes raisons, souvent économiques, mais pas que, de ces Jeux, le refus des grands projets, des méga événements, etc. Et en France, on a vraiment eu ce truc où il n'y a eu aucune consultation et derrière, pas vraiment de contestation de cette absence de consultation. Et une fois l'organisation des Jeux accordée à Paris, il n'y a pas non plus eu de gros, massifs mouvements d'opposition. Donc on est vraiment dans une situation très étrange de sorte d'inertie, paralysie démocratique face à ce méga événement.
Et comment ça s'explique ça? Qu'est-ce que ça dit un petit peu de la France aujourd'hui?
Ça s'explique de différentes manières. Je pense que la première chose, c'est la temporalité. C'est-à-dire que quand la France décide de mettre en branle la candidature de Paris aux JO de 2024, on est en 2015, on est juste après les attentats de Charlie Hebdo, donc dans un moment vraiment tragique de l'histoire de Paris. Et suite à ces attentats, il y a cette énorme manifestation à Paris avec plein de chefs d'État et de gouvernement du monde entier qui viennent manifester. Et cette manifestation massive, on parle de plusieurs millions de personnes dans toute la France. À Paris, cette manifestation qui est devancée par ces chefs de l'État, François Hollande, les chefs de l'État bras dessous, et l'affirmation de la fierté d'être à Paris, toute une imagerie qui est remise en scène de Paris comme ville de la joie de vivre, etc. Et ce truc-là, en fait, je pense qu'il est, voilà, qu'il y a un moment important de la vie de Paris et de ses habitantes et habitants. Il va être, transformé par le personnel politique comme, en fait, une chance. Eh ben, Paris au centre du monde, eh ben, on prenons ça au mot. Et dans ce même moment de 2015, Paris allait accueillir la COP21, le sommet sur le climat. Eh ben, le gouvernement socialiste de l'époque dit, eh ben, on y va, on présente Paris. Et donc, il y a une sorte de court-circuit. Dans un moment d'état de choc, en fait, de l'opinion publique, il y a un court-circuit du passage par la consultation démocratique qui se fait d'une façon comme ça, très rapide. Et après, à côté, ce que ça pose comme question, ce que ça révèle et qui est quand même assez inquiétant, c'est vraiment, enfin profondément, moi je pense, le manque de culture démocratique de nos gouvernants et qui avaient décidé et qui ont intégré, en fait, à leur vision de l'utilité publique et de l'intérêt général, l'organisation de méga-événements, qui est aussi une manière de flatter un sentiment nationaliste, patriotique. Et donc, la candidature de Paris au JO 2024, ben voilà, ça coulait de source. En plus, il y en avait eu un en 1924. Donc voilà, quelque part, ça a bouclé la boucle du siècle. Et donc, il y a eu la rencontre d'un état de choc citoyen et d'une volonté politique de profiter quelque part de la remise de Paris au centre de l'attention internationale, qui a entraîné que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des mobilisations, on va en parler avec Pierre, mais elles n'ont pas été massives.
Et à ce moment-là, il y a aussi eu la décision de la Coupe du Monde de rugby en France, l'exposition universelle. En 2014, Hollande avait donné son accord aux Jeux Olympiques. Par contre, Anne Hidalgo s'y opposait. Et 3 ans plus tard, elle a changé d'avis.
Oui, il y a eu un retournement de l'avis de la maire de Paris, ce qui est quand même très important, puisque c'est à Paris, enfin c'est Paris 2024, même si en fait ça ne se passe pas que à Paris, beaucoup en Seine-Saint-Denis, mais aussi en Polynésie, un peu à Marseille, mais bon bref. C'est une marque, hein, parce que de toute façon, avec les Jeux Olympiques, tout est question de marque. Donc, on est vraiment dans le copyright commercial. Donc, Paris 2024 est une marque, comme Los Angeles 2028 sera une marque. Et donc, la maire de Paris, au départ, était opposée, bah, parce que la maire de Paris, en fait, à ce moment-là, elle se fait l'écho de toutes ces critiques citoyennes qu'on entend à Stuttgart, à Rome et à Boston. En fait, elle se fait quand même tordre le bras en 2017 par François Hollande, Manuel Valls et toute une partie du gouvernement. Alors, elle se range à cette décision qui a été prise par l'exécutif. Moi, j'ai pas le fin mot de l'histoire, hein, honnêtement. Je sais pas, au fond, en son fort intérieur, qu'est-ce qui a vraiment convaincu Anne Hidalgo de changer d'avis. Il me semble que ce moment Charlie est un moment charnière. Et après, on peut aussi, alors je vais faire l'hypothèse assez facile, qu'à ce moment-là, ça a pu aussi représenter pour Anne Hidalgo qui envisageait à ce moment-là, pourquoi pas, de se présenter à la présidentielle qui allait suivre, que ça pouvait représenter symboliquement un moment de montée en notoriété qui pouvait l'intéresser politiquement. Elle a pu y voir, en fait, un investissement politique, politicien, sachant qu'il y a un autre élément intéressant, c'est que depuis 2015, il y a une coalition de villes internationales qui s'est créée, portée par la fondation de Bloomberg, le milliardaire états-unien qui a été maire de New York. Et cette coalition de villes internationales, au-delà du fait de essayer de créer des événements qui font parler de ces villes, se rejoint aussi autour de l'importance accordée à la visibilisation des villes comme sujet qui est quasiment géopolitique. Rendre ces villes, New York, Paris, Londres, Tokyo, aussi connues et presque aussi importantes que des États, en faire des centres d'investissements capitalistiques, financiers, vraiment de premier rang. Et donc, l'organisation d'un méga événement comme les Jeux Olympiques, ça rentre complètement dans cette logique de nouveaux personnages politiques, géopolitiques que sont ces méga cities et qu'un méga événement, ça aide à gagner en capital symbolique pour une ville comme Paris. Et ça va de pair avec toute une politique d'investissement immobilier, de réorganisation de la finance aussi, qui de plus en plus investit et considère l'urbanisme, l'urbanisation, le développement de quartiers comme des espaces d'investissement rentables. En fait, se rencontre un mouvement de financiarisation de la ville et un mouvement de géopolitique urbaine très néolibérale, tout en se parant de valeurs écologistes. Et tout ça, en fait, se rencontre dans cette candidature de Paris 2024.
À ce moment-là, les politiques se demandent si les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 peuvent faire du bien aux personnes qui vivent dans le département, l'un des plus pauvres du pays, donc la Seine-Saint-Denis, et principal lieu d'accueil de l'événement avec le village des athlètes et celui des médias. C'est donc ce qu'affirment la plupart des élus, souvent de gauche et parfois écologistes. qui sont favorables au JO dans le 93, donc c'est ce que vous dites dans votre livre. Est-ce qu'on peut trouver qu'il y a un décalage avec ce que prétendent aujourd'hui ces politiques ?
En fait, c'est hyper intéressant parce que, de fait, il y a un consensus politique qui traverse les familles politiques autour des Jeux Olympiques. Enfin, ça, de la droite à la gauche, et y compris jusqu'à certains écologistes, hein, jusqu'à la fin de l'année dernière et la montée de la polémique suite à l'annonce de la hausse des prix des transports, etc., etc. Mais on va dire jusqu'à la fin 2023, il y avait vraiment ce consensus politique. Et en fait, il s'explique pour une raison qui, en fait, à mon avis, est assez triste, qui est l'exigence par ces élus du 93 d'un rattrapage. Puisque le département de la Seine-Saint-Denis est un département qui est notoirement sous-investi. Il y a tellement moins d'investissements publics dans l'école, dans les équipements sportifs, dans la voirie, de création d'espaces de biodiversité. Enfin, la liste est très, très longue sur lesquelles il y a vraiment une dimension profondément injuste et même discriminatoire que subissent les habitants de la Seine-Saint-Denis par rapport à d'autres départements et à commencer par Paris en termes d'investissement public, que quand arrive ce dossier de candidature de Paris 2024, en fait, ces élus locaux, ils y voient une opportunité. Ils y voient l'opportunité d'un rattrapage. En fait, nous qui n'avons jamais d'argent pour financer ce qu'il faudrait financer pour nos habitants et habitantes, enfin, on va avoir de l'argent. Le problème, c'est que cette forme d'empirisme qu'ils ont eu et qu'on peut comprendre, enfin moi en tout cas j'entends complètement la logique de ce positionnement, ne s'est accompagnée de quasiment aucune condition, en tout cas des conditions très faibles sociales en termes de retombées directes pour le territoire. Et c'est là où on arrive à cette situation où on a un décalage, mais un écart béant entre les promesses qui sont vraiment un peu délirantes, hein, mais de faire décoller la Seine-Saint-Denis, la nouvelle ville, un territoire, le quartier des athlètes, le village des athlètes qui va devenir ensuite un nouveau quartier de 6 000 habitants, au carrefour de Saint-Denis et de Saint-Ouen, en faire une nouvelle ville nouvelle. Enfin, il y a vraiment un discours hyper volontariste. Et en fait, ce discours-là, ce qu'il cache, c'est que les retombées directes, concrètes, pour les habitantes et habitants du territoire, en fait, elles sont très faibles. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, en termes d'emploi, sur les marchés des Jeux Olympiques, si on regarde quelle est la part d'entreprises, de PME et de toutes petites entreprises, les TPE, situées en Seine-Saint-Denis, quelle est la part de ces entreprises qui bénéficient de ces marchés ? C'est seulement 15% des marchés qui vont à des entreprises PME et TPE de la Seine-Saint-Denis. Si on regarde les heures d'insertion qui sont beaucoup mises en avant par la Solideo, qui est la structure publique qui construit les aménagements olympiques, elle met beaucoup en avant le fait qu'il y a 10% d'heures d'insertion, c'est fondamental, ça donne de l'emploi à des gens très éloignés de l'emploi. Concrètement, combien d'habitantes et habitants de la Seine-Saint-Denis ont bénéficié de ces heures d'insertion ? 1694 personnes. Tant mieux pour ces personnes si ça les rapproche de l'emploi, mais dans un département où il y a 165 000 personnes qui sont en demande d'emploi, on voit bien que ce sont des petites miettes. Et en fait, dès qu'on commence à regarder dans le détail en termes de création, d'amélioration pour les habitants, vraiment, les retombées positives sont toutes petites. Certes, il y a des traversées, il y a un franchissement urbain à côté de Pleyel, il y a la construction de piscines, ça c'est aussi beaucoup mis en avant par les JO, le réaménagement, la réhabilitation de certains gymnases, donc tout ça est beaucoup mis en avant. Mais si on regarde en termes d'argent ce que ça représente par rapport aux quasiment 9 milliards d'euros que coûte l'ensemble des JO, à ce jour et sans doute plus à la fin, c'est des confettis presque. Et là, de ce point de vue-là, moi, il me semble que les élus n'ont pas su ou n'ont pas pu défendre leurs habitantes et habitants à la hauteur de ce qu'ils auraient dû faire.
Pierre de Sacache, qu'est-ce que vous répondez à ces élus ? Qu'est-ce que vous mettez en place, justement ?
Alors justement, pour compléter un peu ce que disait Jade, je pense aussi que ce n'est pas qu'une histoire de concurrence de ville. Effectivement, il y a ce côté, on va avoir de l'argent et ça va rattraper. Ce qu'on regarde un peu à sa cage aussi, c'est le rôle clé, par exemple, du PCF. Historiquement, depuis les années 50, le PCF est pro-JO et fait tout pour avoir les JO. Et effectivement, c'est des territoires qui, Saint-Denis vient de passer PS récemment, mais sont quand même contrôlés par le PCF. Et je pense qu'il y a une idéologie de lutte sur quel terrain on peut lutter et qu'est-ce qu'on fait par nos villes qui, mine de rien, a été beaucoup matrixée par le PCF. Et c'est pas pour rien qu'à Aubervilliers et à Saint-Denis, le PCF a tout fait pour avoir les JO, parce que idéologiquement, ils militent pour ça, en fait. Et je pense que notamment, on a vraiment du mal aussi à impulser des luttes, parce que, mine de rien, on est l'historique de ce que beaucoup de luttes qui ont été faites par le PCF, et n'ayant jamais allé sur ce terrain-là, Je pense que, par exemple, le fait qu'on entende encore beaucoup aujourd'hui dire que les JO, c'est populaire, ça vient de là. Tout nous prouve que c'est pas populaire. Mais on a encore cette image parce que le PCF, notamment, a accompagné ça pendant 50 ans, en fait.
Et comment ça s'explique, justement, que le PCF l'ait accompagné aussi longtemps ?
Alors, ça s'explique sur des trucs de géopolitique que je ne maîtriserai pas, mais qui sont clairement dus à la guerre froide, clairement dus à comment l'URSS s'est positionnée par rapport aux JO. Parce que, historiquement, dans les années 20, au moment où il y a la révolution bolchévique, les bolcheviks sont partis des JO en disant « c'est quelque chose de bourgeois, on part ». Et de mémoire, je crois que finalement, ensuite, l'URSS est revenu sous Staline, je crois en 48. Enfin, voilà, il y a tout un contexte et clairement, le PCF est aligné sur la ligne stalinienne hein, jusqu'à quand même très longtemps. Donc, je pense que c'est vraiment ces contextes géopolitiques qui expliquent le positionnement du PCF jusqu'à tard, en fait.
Et puis, le fait, par rapport à ce que dit Pierre à l'instant, que sur le territoire vraiment strictement, directement concerné par les aménagements JO de 2024, donc la plaine Saint-Denis, Pleyel, etc. C'est un territoire qui a été développé en effet par les communistes au pouvoir à partir des années 90, notamment au moment de la Coupe du Monde de foot en 1998, avec la construction du Stade de France sur la plaine. Et ça, qui à ce moment-là est le jalon d'un réaménagement de tout ce territoire dans une alliance quand même concertée entre des instances municipales et d'agglomérations communistes et des entreprises. Il y a une alliance qui est paradoxale parce que historiquement, position anticapitaliste du Parti communiste et qui là, sur l'aménagement de la Seine-Saint-Denis, va être pas du tout anticapitaliste. Au contraire, va inviter à s'installer toutes ces entreprises avec l'idée que ce qui fera se développer le territoire, c'est l'installation de ces sièges d'entreprises et d'où le fait qu'aujourd'hui, on a toutes ces entreprises qui sont sur la plaine Saint-Denis, d'ailleurs un endroit qui est très bétonné. Alors à l'époque, il y a un petit deal qui avait été passé, qui avait permis l'enfouissement pour partie de l'autoroute A1, parce qu'il faut dire par ailleurs que tout ce territoire est dévasté par les traversées urbaines, les autoroutes, qui fait passer la pilule quelque part. Mais d'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui avec le village des athlètes dans ce triangle Île-Saint-Denis, Saint-Denis-Saint-Ouen, ou le village des médias sur Duny, donc sur un bout du parc Georges Valbon, le parc de la Courneuve, en fait, c'est la continuation de cette histoire d'aménagement mairie de gauche, main dans la main avec le capital privé. Et d'ailleurs, Patrick Braouzec, l'ancien maire de Saint-Denis, l'ancien président de la communauté d'agglomération de tout ce territoire, il le dit lui-même très ouvertement que pour lui, ce qu'il a beaucoup porté aussi la candidature de Paris 2024, il dit pour lui, c'était le deuxième étage de la fusée. Quand même, la métaphore, elle est hyper intéressante parce qu'on est vraiment dans un imaginaire qui est très productiviste, volontariste. Moi, j'estime même brutaliste parce que on met beaucoup d'argent très vite avec pas du tout de discussion possible sur un territoire très démuni. Donc forcément, les effets, ils sont radicaux. Il y a un côté aménagement du choc. Et ça continue, en fait, cette histoire qui a déjà 30 ans.
Et le troisième étage qui aurait dû être Saint-Denis, ville candidate pour ville européenne, et qui a échoué, et tant mieux, parce que ça aurait justement parachevé des dynamiques. Et justement, c'est l'histoire de la Coupe du Monde, parce qu'on voit vraiment que les logiques de Coupe du Monde et de JOP sont vraiment très similaires. C'est fou dans la mémoire des luttes qu'on n'ait pas la mémoire de 98. Et même nous, sur le terrain, c'est compliqué d'aller chercher cette mémoire, d'avoir des analyses, alors que c'était il n'y a pas si longtemps que des gens qu'on croise nous en parlent, mais qu'en fait, tout est là. C'est-à-dire, les arguments étaient déjà les mêmes. Le fait que ça va y avoir des retombées positives sur le territoire, le sport comme sauveur du 93, tout était vraiment exactement le même logiciel et les conséquences, on les sait. C'est-à-dire que, oui, le Stade de France, il y a des concerts, mais ne serait-ce que sur Wikipédia, qui n'est pas le truc le plus de gauche au monde, c'est considéré comme un éléphant blanc, donc preuve que ça ne retombe pas sur le département. C'est effectivement beaucoup d'entreprises qui arrivent, est-ce que ça retombe sur le territoire ? Non. Toutes ces conséquences, on les a et on les connaît. Et on peut déjà les regarder en fait 20 ans plus tard. Et de fait être, on arrive à, en 2017 et en 2020 à peu près, qu'on nous ressorte exactement les mêmes arguments et qu'on n'ait pas ces contestations-là en tête, et notamment ces arguments. Par exemple, nous, quelqu'un qu'on avait croisé, qui nous dit « bah moi, en fait, je faisais énormément de sport en 98. La retombée sur les clubs de sport, elle était catastrophique. Parce que, évidemment, la Coupe du Monde et les JO, les premiers qui trinquent, c'est les clubs de sport, en fait. On nous dit que ça promeut le sport. Non, ça promeut un sport d'élite. Il y a des piscines qui sont fermées depuis un an sur Paris où les petits clubs de sport ne peuvent plus faire parce que, en fait, la piscine, elle va être utilisée pour les JO, donc pour un sport de compétition d'élite. Et en fait, faire croire que le sport, c'est le gagnant de la Coupe du Monde des JO, c'est complètement faux, en fait. Les petits clubs de sport vont être poussés pour vraiment avoir un sport d'élite. Et tout ça a déjà eu lieu aussi en 98. Par rapport au sujet aussi de penser les luttes, comment on a cette mémoire des luttes et comment nous, on va aussi laisser une mémoire de Paris 2024 pour ceux qui arrivent derrière. La grande force des JOP, c'est en fait d'arriver dans un territoire qui n'a pas eu les JO depuis peut-être longtemps. Par exemple, il y a des grosses contestations à Los Angeles parce que, bah oui, eux, leur dernier JO, c'est 84. C'est pas 1924, donc ils se souviennent, ils savent ce qui s'est passé. Nous, c'était à 100 ans, donc on peut se dire « Ah oui, c'est génial ». En fait, ils arrivent, le temps qu'ils détruisent tout et qu'on s'en rende compte et que l'attention monte, eh ben, ils sont partis. Et ils reviendront peut-être dans 50 ans, 60 ans, même si bon, pour nous, ils reviendront en 2030. Et du coup, il y a vraiment ça. Et juste pour compléter sur ce que tu disais par rapport à l'aspect autocratique, je pense que c'est notamment ce qui a validé la candidature des Alpes 2030. Parce que donc, peut-être tout le monde n'est pas au courant, mais donc, les Alpes 2030 ont été validées, pas officiellement, mais c'est les seuls à qui le CIO dialogue pour la candidature des Jeux d'hiver 2030. C'est une candidature qui est apparue en juillet cet été et qui a été validée 4 mois plus tard. Donc, en termes de démocratie, c'est encore une fois nul de chez nul. Il y a eu un petit sondage, je crois, qui a été piloté par Muselier, histoire de dire que, mais vraiment, je crois que la question qu'ils ont posée, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre des Jeux durables et bénéfiques pour tous ? Enfin, voilà. Donc, très peu de concertation et surtout 4 mois pour laisser le temps aux personnes de se retourner et de savoir ce qui va se passer. Et moi, je pense vraiment que ce qui a milité pour que le CIO choisisse la France, parce que donc il y avait la France, la Suède et la Suisse, c'est le fait qu'en fait, ils voient qu'en France, bah, la contestation, elle est réprimée et que, bah oui, la France, ça va se tenir sagement parce qu'on va envoyer les flics. Le CIO fait quand même des discussions avec l'Arabie Saoudite. En 2014, c'était en Russie. En 2022, c'était en Chine. Enfin, l'autocratie, ils connaissent, quoi. Ils aiment bien ça. Du coup, je pense vraiment que c'est ce qui a joué dans le dossier pour 2030.
Et comment on explique que les mémoires soient entre guillemets enfouies, celles de la Coupe du Monde de 98, que les arguments opposants ne soient pas ressortis en amont de ces Jeux Olympiques, justement ?
Bah, ça, je pense que c'est vraiment en vrai une question de fond de comment on laisse des traces de nos luttes. Comment, en fait, on arrive à ne pas refaire tout le temps la même chose. C'est-à-dire que ceux qui ont lutté avant nous ont eu des questionnements, mais potentiellement, les groupes se sont dissous, n'ont pas laissé d'écrits ou très peu. Et nous, clairement, à Saccage, quelque chose qui a vraiment boosté notre réflexion des luttes, c'est en fait d'avoir l'avis et l'expertise des autres luttes, des JO. Il y a un mouvement qui s'appelle No Olympics Anywhere qui dit en fait, c'est pas on veut pas de Paris 2024, c'est on ne veut pas des JO ni ici ni ailleurs. Et en fait, en discutant avec des militants de Rio 2016, de voilà, ceux qui sont en train de se mobiliser pour Los Angeles ou Milan 2026, de voir qu'en fait, il se passe toujours la même chose, les mêmes logiques et comment ça s'est créé, que nous, on a réussi aussi à tirer des analyses et à se dire, mais en fait, ça va se passer comme ça. Parce que ça se passe toujours comme ça. Et c'est vraiment un des trucs fondateurs et des Coupes du Monde et des JO. C'est que c'est pas des aléas, en fait. Enfin, le fait que les budgets explosent, c'est structurel. Ils le savent. Ils diminuent les budgets pour que ça passe. Donc, ils savent que de toute façon, les budgets vont exploser. Tout ce qui se passe est structurel à une très grande majorité, en fait. C'est pas parce que ça a été mal géré ou c'est la faute à pas de chance. À chaque fois, il y a une militarisation de l'espace. Voilà. Mais parce que c'est une des idées par rapport à ce que disait Jade sur la néolibéralisation et la financiarisation de l'urbain. C'est une des motivations pour les JO. Pour les JO d'hiver, une des motivations, c'est de redorer les stations de ski. C'était le cas à Chamonix en 1924, oui. C'était le cas à Albertville en 92. Et là, il ne faut pas s'étonner si d'un seul coup, alors qu'on est en train de dire que les stations de ski n'ont plus d'avenir parce qu'il n'y a plus de neige, qu'on se dit, tiens, on va peut-être aller faire des JO dans les stations de ski. Ça permettra de refinancer des routes, ça permettra de refinancer les stations pour leur donner plein de sous et qu'ils puissent continuer comme avant.
Pensez les luttes avec Radio Parleur.
Retrouvez nos émissions, entretiens et reportages sur votre plateforme préférée de podcast.
Concernant la scène Saint-Denis, donc ce sera 3000 athlètes et accompagnants et accompagnants et accompagnantes qui seront logés sur l'île Saint-Denis. Il y en aura à Saint-Denis, à Saint-Ouen. En 2025, il y aura 325 familles qui pourront y loger, mais seulement une cinquantaine de logements sociaux qui seront réservés aux habitants et habitantes de l'île Saint-Denis.
Oui, bah en fait, c'est moi une des surprises, hein, très honnêtement, que j'ai eues en commençant à enquêter sur les effets sociaux des aménagements des Jeux, parce qu'il y a peu d'aménagements. C'est beaucoup mis en avant par la candidature de Paris 2024. Justement, on veut éviter les éléphants blancs, construire le moins possible et construire que ce qui est utile. Et donc, ils sont construits. Donc, ce village des athlètes, sur Saint-Ouen, c'est sur trois villes, Saint-Ouen-Saint-Denis, Île-Saint-Denis. Or, quand on regarde, concrètement, il y a au moins 1500 personnes qui ont été définitivement délogées de leur habitation en lien direct ou indirect avec les Jeux Olympiques. Et de qui parle-t-on ? Eh ben, on parle des 300 hommes qui habitait dans un foyer de travailleurs étrangers, foyer ADEF, alors foyer qui était insalubre, indigne, dans un état lamentable, qui se trouvait à Saint-Ouen, sur le périmètre où a été construit depuis le village des athlètes. Ils ont été délogés, hébergés temporairement dans deux espaces de relogement avant d'être encore relogés dans 2 ans ou 3 ans dans des nouveaux bâtiments. Donc c'est un processus encore en cours, mais ils ont été délogés définitivement. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas été possible quand même de leur trouver sur ce village des athlètes qui va devenir un nouveau quartier au super top niveau du design urbanistique, environnemental, etc., hyper moderne. Pourquoi on n'a pas pu leur trouver une petite place? C'est quand même une question qui peut se poser. Donc, il y a ces 300 personnes. Il y a 400 personnes qui habitaient dans un squat, le squat Unibéton à l'île Saint-Denis, en bordure donc d'une autre partie du quartier du village des athlètes qui ont été expulsés. Alors, eux, sans relogement et laissés, bah, débrouillez-vous. Et enfin, il y a cette situation, moi, je trouve très intéressante, et enfin, au sens vraiment le plus empathique que je puisse avoir, parce que vraiment dramatique, qui sont les habitants donc, de la cité Marcel Paul. Et en deux mots, la cité Marcel Paul, c'est une cité de logements sociaux sur l'île Saint-Denis, une cité très déshéritée, en très grande difficulté, qui est passée de bailleur en bailleur, avec un bailleur social qui n'a pas du tout bien traité les gens. Toujours est-il que dans cette cité, il y a un projet de rénovation urbaine, un projet en rue, qui a précédé les JO, mais à partir du moment où l'organisation des JO a été attribuée à Paris 2024, le processus de relogement a été mis sous une pression intense, ce qui fait qu'une partie de ces familles se sont retrouvées mises sous une pression terrible pour accepter des propositions de relogement qui ne correspondent pas à la loi, c'est-à-dire très loin, pas dans une commune limitrophe à moins de 5 km et dans un loyer équivalent à ce qu'elles payent aujourd'hui, qui est la définition en fait de ce qui doit border, enfin l'encadrement légal obligatoire des relogements dans le cadre de la rénovation urbaine, et donc se sont retrouvés mis sous pression et avec du fait de ce calendrier de il faut partir avant les JO parce qu'en gros ces tours elles devaient être démolies avant les Jeux Olympiques, ça c'est pas sûr qu'ils vont le faire jusqu'à présent, mais en tout cas ces personnes elles doivent partir. Et donc tout ça pour dire qu'on a ces 1500 personnes qui ont été délogées alors de manière définitive. La Solidéo qui construit les ouvrages dit quand même bon, bah, c'est rien. Bon, déjà, c'est pas à cause de nous. C'est pas nous qui avons demandé. Bon, ce qui est vrai et en même temps est hypocrite, puisqu'on voit bien qu'il y a l'événement JO et il y a tout ce processus urbain qui accompagne et qui est, comment dire, amplifié par les Jeux Olympiques. Et on dit, ah bah, et par ailleurs, c'est quand même très peu par rapport aux 1,5 millions de personnes déplacées en Chine ou aux centaines de milliers de personnes déplacées à Séoul, en Corée au moment des Jeux de Séoul. Mais on peut leur dire, oui, bah, d'accord, mais enfin, bon, pour chacune des personnes concerné, c'est quand même un bouleversement, c'est un bouleversement subi, et c'est d'autant plus choquant, me semble-t-il, que si on regarde quand même tout l'argent qui est dépensé par ces Jeux Olympiques, on disait tout à l'heure, c'est quasiment 9 milliards d'euros, au total, il y a 2 milliards d'euros qui auront été dépensés sur ce village des athlètes, donc c'est de l'argent en très grande partie privé, hein, donc c'est pas un enjeu tellement d'argent public, mais c'est en très grande partie de l'argent privé. Mais quand même, on dépense quasiment 2 milliards d'euros sur un petit confetti, parce que c'est 50 hectares, c'est une toute petite partie de l'espace urbain du Grand Paris. Et avec ces 2 milliards, on ne trouve pas le petit espace pour au moins pouvoir garder au même endroit les personnes qui habitaient. Là, il y a quelque chose qui est quand même qui dit beaucoup du fait que, en fait, tout ça n'est pas au service des habitants, c'est au service d'un projet urbanistique qui font rêver certains élus, l'idée de faire décoller leur ville. L'idée de profiter du Grand Paris, quand même, tout ça est très lié aussi au rêve du Grand Paris, d'une grande métropole parisienne où viendrait s'épanouir une classe moyenne, écolo, travaillant dans les services, circulant à vélo, étant très heureuse, etc. Avec vraiment pas beaucoup de place pour les prolétaires, familles précaires qui sont en fait les habitantes et habitants de ce territoire aujourd'hui. Et aussi ce projet, cette idée urbanistique de d'étendre la métropole de Paris. Et ça ne part pas du tout des souhaits, besoins des personnes qui habitent sur ce territoire. Donc ça, c'est aussi une des conséquences de l'absence de consultation démocratique. Et ça, c'est vraiment, enfin, comment dire, le derrière du décor des Jeux Olympiques et qui jusqu'à présent n'a pas réussi à percer médiatiquement. Parce que tout ce que je raconte là, c'est pas du tout secret. Ça n'a pas été caché. Ça s'est passé au vu et au su de tous. Il y a même eu des articles, enfin, nous, dans Mediapart, on a chroniqué, mais on n'a pas été les seuls. Le Bondi Blog a chroniqué. Le Parisien fait un suivi assez régulier, en fait, de ces histoires. Et pour l'instant, ça n'a pas du tout grippé la machine olympique, mais ça n'a même pas non plus tellement écorné l'image un peu flamboyante des Jeux olympiques. Et pour moi, quand je parle de violence, une ville face à la violence olympique, la violence, en fait, c'est aussi la violence de l'invisibilisation des souffrances sociales, enfin humaines, personnelles, intimes, provoquées par ce processus qui écrase tout sur son passage.
Vous parlez d'ailleurs de remplacement des populations dans votre livre.
C'est vraiment un risque dans le sens où ce fameux village des athlètes qui a concentré donc 2 milliards d'euros d'investissement, en fait, c'est pour construire des logements, enfin une petite partie sera des logements sociaux, seulement 30% à Saint-Denis et à Saint-Ouen. Et en fait, donc le reste, c'est du logement privé. C'est du logement qui est mis aujourd'hui en vente à des prix de 6 000 euros le mètre carré et même plus, qui sont bien supérieurs au prix de vente actuel en Seine-Saint-Denis, en tout cas dans cette partie de la Seine-Saint-Denis. Donc ça veut bien dire que ça s'adresse à d'autres personnes que celles et ceux qui habitent aujourd'hui. Et donc on voit bien que les personnes qui sont à qui s'adresse ce marché immobilier sont d'autres habitants. Et on voit bien l'idée du profil de Parisiens qui n'ont plus les moyens d'habiter à Paris, etc., et qui pourraient vouloir venir habiter là. Et pourquoi pas ? Moi, j'ai fait ce trajet-là il y a 15 ans quand je suis venue habiter à Aubervilliers. Et donc, bien sûr, les gens circulent et c'est bien. Là, le problème, c'est que vraiment, c'est tellement massif comme investissement, tellement soudain, tellement concentré sur un petit endroit pour la création d'un nouveau quartier ex nihilo. On crée une communauté humaine de 6 000 habitants ex nihilo, un peu dans la logique des villes nouvelles des années 60, et pas pour que ça profite, encore une fois, aux personnes qui sont en difficulté dans ce territoire. Et si on compare, juste pour terminer là-dessus, parce que moi, ça m'a choqué aussi, si on compare ces 2 milliards d'euros avec les financements de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour la Seine-Saint-Denis, c'est 2,3 milliards d'euros. C'est quasiment la même chose. Alors, c'est de l'argent public. Donc, c'est différent. C'est de l'argent public, l'argent de l'ANRU. C'est plutôt de l'argent privé, les 2 milliards d'euros du village des athlètes. Mais en termes de masse, en termes de flux du capital, on a 2 milliards d'euros pour 6 000 habitants au village des athlètes et on a 2,3 milliards d'euros d'argent public pour tout le programme de rénovation urbaine de Seine-Saint-Denis qui concerne peu ou prou 600 000 personnes. Ça va provoquer, ça ne peut que provoquer des changements de population. Et donc, ça interroge quand même sur les effets sociaux de cet aménagement.
Est-ce qu'il est possible, selon vous, Pierre, donc de Saccage, je le répète, d'organiser un événement sportif mondial en respectant les populations d'un point de vue social, même d'un point de vue écologique, plus éthique?
Alors, est-ce que c'est possible? Il y a des expériences qui ont été tentées, mais il y a assez longtemps. Une des plus connues, c'est l'expérience de 36, où en fait, en opposition aux Jeux de Berlin, qu'on appelle couramment les Jeux nazis, parce que c'était le régime nazi à l'époque, l'International des travailleurs avait essayé de faire des Jeux à Barcelone. Bon, malheureusement, il y a eu une guerre civile entre-temps et du coup, ces Jeux ne se sont pas faits. Mais il y a eu plusieurs expérimentations qui ont essayé d'être faites. De facto, aujourd'hui, c'est compliqué de se poser ces questions-là. Comment on pourrait organiser un événement qui rassemble tous les pays, ou en tout cas énormément de pays, au même endroit, qui serait écologique, qui n'encenserait pas le nationalisme, parce que c'est quand même ce qui se passe, vu que tous les pays sont sous leur drapeau. Moi, je pense que le verre est dans le fruit. Les JO, les JOP, ne sont pas un événement sportif. Et je pense que c'est vraiment important de voir l'historicité de ça, en fait. Qu'est-ce que sont les Jeux Olympiques? Ce sont une création du baron de Coubertin, clairement, pour redorer la race blanche suite à la défaite contre la Prusse en 70. Il y a une histoire qui inscrit les JO dans un processus de classe, un processus de race, et dont on est les descendants aujourd'hui. Alors certes, il y a eu des modifications entre-temps. Il y a eu la capitalisation dans les années 80 avec les Jeux de Los Angeles qui fait qu'on a cette forme-là aujourd'hui avec toute la financiarisation et tout ça. Mais je veux dire, en 48, c'était pas mieux. En 24, c'était pas mieux, en fait. Et il faut vraiment comprendre ces phénomènes-là pour voir ce qui ne va pas dans les JO et ce qui, à notre sens, à Saccage, ne peut pas être réformable, en fait. Car vraiment, ça a été fait pour une classe aristocrate, à la base, qui voulait être entre bonnes gens de société. Et actuellement, c'est toujours le cas. Enfin, certes, on peut se poser la question des athlètes, mais en fait, on s'offusque du prix des places, mais je veux dire, ça a toujours été le cas, en fait. Si on reprend la sociologie primaire, les classes populaires, elles regardent le sport, en fait. Elles n'ont souvent pas les moyens d'y aller. Et même, il y a eu un autre bouquin à Divergent, justement, sur ce que le néolibéralisme a fait au foot, et de Jérôme Latta, si je ne dis pas de bêtises. Ses conclusions, c'est exactement ça, en fait. Il y a eu aussi, pendant 40 ans, tout un mouvement où on dégage les classes populaires des stades. Donc, venir encore dire aujourd'hui que c'est les classes populaires qui vont aller voir ces événements-là, non. Les classes populaires vont le regarder à la télé. Et du coup, je pense vraiment qu'il faut revenir sur qu'est-ce qui est intrinsèquement au JO et qui fait que cet événement-là doit s'arrêter. Et après, peut-être, on pourra se poser la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en place en respectant l'écologie, en respectant une volonté de faire du sport une activité populaire. Et est-ce que ça peut être international?
Donc selon vous, pour l'instant, il n'y a rien qui laisse penser qu'aux prochains Jeux Olympiques, donc en Italie en 2026, à Los Angeles en 2028 et en Australie en 2032, il y a des évolutions positives dans les Jeux.
Mais il ne peut pas y avoir d'évolution positive dans les Jeux. Enfin, les Jeux sont faits par le CIO, qui est un organisme privé, qui a des intérêts. C'est poussé par des COCA, c'est poussé par des organismes privés qui vont se faire de l'argent. Les gouvernements, c'est un deuxième temps, en fait, ceux qui accueillent, même si souvent il y a une raison derrière. Enfin, c'est poussé par des gens qui ont des intérêts propres et qui veulent que ces intérêts continuent. Et ces intérêts, souvent, c'est énormément d'argent. Et en fait, ce qui se passe est un plan vraiment... Enfin, ça fait un peu théorie du complot dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. Il y a un déroulé qui se fait, on signe des contrats de ville haute, on crée des lois olympiques pour être sûr que les gens ne puissent pas se rebeller ou qu'en tout cas, ça soit bien cadré. Et ça, c'est connu depuis très longtemps. Et nous, là, on a commencé à travailler... justement sur 2026 Milan, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe la même chose. C'est étonnant de se rendre compte qu'à Milan, en 2015, il y a eu l'Expo Universelle qui a gentrifié Milan et que suite à l'Expo Universelle, ah tiens, en 2017, on s'est dit que ça serait bien qu'on ait les Jeux Olympiques en 2026 parce que ça continue. Et en fait, il y a un quartier à Milan qui va être rénové, qui est une ancienne friche industrielle et bizarrement, tiens, c'est Prada qui va être dans ce quartier. Et 2030, on est déjà en train de voir la même chose. Ce qui peut être vraiment intéressant de noter, c'est comment les grands événements sont en train de ne plus être un grand événement, mais de s'éparpiller. Par exemple, la Coupe du Monde, qui est un sujet que je connais moins bien, je sais que la prochaine, elle est aux États-Unis, mais pas à un seul endroit. Ils ont prévu de la faire à plein d'endroits. Et en fait, on va vers ce modèle-là, c'est-à-dire que Milan 2026, c'est pas Milan, c'est Milan Cortina. Donc on parle déjà de 4 villages olympiques. Et les Alpes 2030, pour l'instant, les prévisions, c'est ça aussi, en fait. C'est 4 villages olympiques répartis entre Nice et je sais plus où, un peu plus haut dans les Alpes. Je crois que le point le plus haut, ça sera Gap. Donc en fait, de se dire. Et là, pour Milan 2026, ils sont vraiment en train de parler. Enfin, il y a un petit visuel que vous pouvez trouver sur Internet. Ils délocalisent des compétitions parce qu'ils ne sont pas en capacité d'accueillir toutes les compétitions. Et Lac Placide, aux États-Unis, s'est proposé. Et il y a un visuel incroyable où il y a une petite ligne entre Lac Placide et Milan et qui dit genre, nous sommes qu'à un pas de vous. Mais parce que c'est ça, en fait. Ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus les moyens... de le faire, mais que pourquoi pas délocaliser en fait, parce que de toute façon c'est un avion à prendre, comme voilà, pour Paris il y aura des trucs à Tahiti, enfin il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit mieux dans les autres éditions parce que les mêmes schémas se reproduiront tant qu'on ne lutte pas contre. Pour donner un exemple, si on prend juste l'aspect militarisation de la société, où on peut se dire ah oui mais c'est dans un contexte de montée du terrorisme, bon c'est tout ce qu'on veut, on peut se poser la question pourquoi Tokyo 2020, qui est devenu Tokyo 2021, il y a eu des militaires partout dans la rue alors qu'il n'y avait pas de spectateurs et que ça jouait à huis clos. Aller dans ce sens-là, c'est reprendre leur propagande de se dire oui, en fait, on met des militaires parce qu'il y a un risque terroriste. Mais en fait, non, on ne met pas que des militaires parce qu'il y a un risque terroriste. On met aussi des militaires parce qu'il y a des sociétés de l'armement. Il y a un très beau schéma où il y a et des sociétés états-uniennes et israéliennes qui viennent former pour l'antiterrorisme. En France, on a des très bonnes sociétés de l'armement qui ont prévu de se faire des sous. D'ailleurs, ils sont un peu mécontents parce que pour l'instant, les demandes publiques sont plus basses que ce qu'ils espéraient. Enfin voilà, il y a des intérêts privés derrière qui poussent à ça. Et ça sera la même chose à Milan, ça sera la même chose dans les Alpes 2030.
Les Jeux Olympiques auront lieu en 2024, ça, il n'y a pas trop de doute a priori. À quoi ça sert concrètement de se mobiliser aujourd'hui, Pierre?
Mais ça sert à plein de choses. Déjà, moi, je vraiment lutte contre un fatalisme ambiant. Je pense que déjà, la première chose, par exemple, c'est d'être là pour les JOP. Parce que beaucoup de gens se disent, et je comprends vraiment qu'on va fuir, mais malheureusement, c'est exactement ce qu'attendent les organisateurs des JO, parce que de toute façon, ils savent qu'il n'y a pas assez de place dans les transports pour nous. Donc déjà, restez, mais foutez le bordel en restant, et revendiquez votre ville, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fuit l'endroit où on habite. Et en fait, ne serait-ce que pour les Alpes 2030, qui certes sont la seule ville qui est en dialogue avec le CIO, mais qui pour l'instant n'est pas officialisée, en fait, on sait que le meilleur moyen d'arrêter les JO, c'est avant que la candidature soit officialisée. Donc là, il y a une petite fenêtre de tir pour les Alpes. Bah, en vrai, au plus Paris 2024 se passera mal, et je pense que malheureusement, ils n'ont pas besoin de nous pour ça, mais quand même, au plus il y aura des manifestations, au plus il y aura une contestation populaire, au plus le CIO se dira, en fait, on va peut-être aller autre part. Même si, en finalité, nous, on ne veut pas qu'ils aillent autre part, on veut que ça s'arrête. Si ça peut ne pas se faire dans les Alpes, ça sera quand même très chouette. Et en vrai, c'était un coup très dur de se dire que en fait la contestation à Paris n'a pas été assez haute pour que ça soit pas les Alpes qui soient choisies. Après on voit clairement les effets, hein. La réflexion aujourd'hui sur le thème des JO n'est pas du tout celle de 2017. On sent que voilà le militantisme a quand même fonctionné dans le sens où là les gens ne sont pas en train d'accueillir les Alpes en se disant que ça va être incroyable et que ça va être la paix dans le monde, ce qui a vraiment été le cas pour Paris. Ça a été très long de faire émerger des thématiques sur la gentrification, sur les expulsions, et de dire non, ce qui va se passer, ça ne va pas être chouette. Moi, je trouve que déjà, là, on sait, parce qu'il y a l'expérience de Paris qui n'est pas finie, que c'est ce qui va se reproduire. Après, voilà, c'est très compliqué d'avoir les JO comme cible. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent « Ah bah oui, on va utiliser les JO pour soit avoir des augmentations de salaire parce que voilà, le secteur est touché, soit pour redemander plein de choses. » Nous, on ne s'oppose pas à ça. Au plus les effets négatifs des JO sont minimisés, au plus on est content. Évidemment que s'il y a des populations qui ne sont pas évacuées de leur maison, voilà, des personnes qui ne sont pas tapées par les flics, globalement, on est content. Néanmoins, il faut aller jusqu'au bout du truc et cibler les JO, en fait, parce que c'est eux, en grosse partie, qui amènent toutes ces problématiques-là. Et tant qu'on ne les prendra pas comme sujet pour dire c'est ça qu'il faut arrêter, bah en fait, ça continuera. Et vraiment, par exemple, je m'en rappelle l'année dernière, quelqu'un nous a dit « Ah oui, mais en fait, là, déjà, pour Paris, les constructions sont finies. » Et en gros, pas ça sert plus à rien de lutter, mais en fait, c'est la question de l'héritage maintenant. Et en fait, c'est vraiment méconnaître tout ce qui peut se passer et ce qui va se passer. Il reste 6 mois. Par exemple, la militarisation, on est encore loin d'avoir tout vu. Là, ils viennent à peine de sortir les affiches sur les brigades de policiers qu'il va avoir dans les transports en commun, où très peu de gens sont au courant. On a l'histoire des zones et des QR codes. En fait, il reste 6 mois pour découvrir plein de choses très sympathiques. Tu parlais d'argent. On ne sait pas quelle va être la dette, en fait, pour l'instant, la dette publique. Là, on regardait quelque chose il n'y a pas longtemps. Je crois que Rome, donc c'est 1960, Rome, les Jeux d'été, viennent tout juste de finir de payer la dette des JO cette année, où je crois qu'ils n'ont pas encore fini. Enfin, c'est des dettes de 20, 30, 40 ans, généralement, sur les villes avec les JO. Ça, le coût de la dette, on le saura peut-être l'année prochaine, peut-être pas, parce qu'ils ne communiquent pas énormément dessus. Croire que les effets négatifs des JO ont tous eu lieu parce que les constructions ont eu lieu, c'est vraiment méconnaître plein de choses. Par exemple, là, on parle justement des expulsions qui continuent, avec beaucoup de personnes sans papier qui sont envoyées en province. Là, nous, on est en train de bosser avec ACT UP sur justement le sujet des travailleuses du sexe, comment elles vont être réprimées aussi avec les JO. Ça, malheureusement... Le pic de tout ça, ça sera pendant les JO et après, quoi. Donc, il faut continuer à se mobiliser. Et nous, par exemple, on aimerait bien que c'est un dialogue avec les syndicats qui est très compliqué, mais que le 1er mai soit un 1er mai anti-JO. En fait, c'est vraiment un objectif qu'on voudrait avoir, que tout le monde soit dans la rue en disant, en fait, il faut déglinguer les JO parce que c'est un point central sur toutes nos luttes. Que ça soit les luttes sur les précaires, sur les hébergements, sur l'écologie, tout ça va être vraiment accéléré avec l'arrivée des JO.
Il y a un panorama des luttes qui est assez large, donc ça peut aller de l'intersyndicale nationale des VTC, association des VTC de France, des policiers, les policières aussi ont lutté. Il y a plein de collectifs qui s'y opposent. Est-ce qu'on peut imaginer que les Jeux Olympiques puissent être vecteurs, entre guillemets, d'une intersectionnalité des luttes?
Bah, elle a été difficile à construire, cette intersectionnalité, en tout cas cette convergence ou cette composition des luttes. Elle a quand même été très difficile à construire, hein, on le voit. Hein. Moi, il me semble que c'est quand même très frappant la différence de mobilisation entre ce qui se passe le début de mobilisation dans les Alpes, à Briançon, à Nice, contre la candidature des Jeux d'hiver de 2030 et ce qui s'est passé pour Paris 2024. C'est-à-dire qu'il y a d'ores et déjà plus de mobilisation contre la candidature 2030 en termes de nombre de personnes, dans la visibilité médiatique... La création de collectifs militants, c'est déjà à la fois plus actif et plus visible que ce qui s'est passé pour Paris 2024, où ça a été très long à faire émerger médiatiquement, et où, à part saccage et quelques collectifs d'habitants, il n'y a pas eu beaucoup de choses, à part des défenses très spécifiques, par exemple la lutte de protection des Jardins des Vertus à Aubervilliers ou pour le parc Georges Valbon à Duny. Et en fait, pour moi, cette différence, elle est importante à analyser. Il me semble qu'elle dit pas mal de trucs. Elle dit que dans un cas, ben, y a peut-être un lieu à défendre, des sites à défendre. Et les Alpes, la montagne, on est quand même à un moment où il y a beaucoup de gens qui veulent les défendre contre leur exploitation industrielle que les JO peuvent aggraver. Alors que la Seine-Saint-Denis et ce territoire particulier de Saint-Denis, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, où les JO s'installent, c'est un lieu que pas beaucoup de gens ont envie de défendre parce que ce sont des lieux dégradés. Parce que ce sont des lieux qui sont mal aimés, qui sont considérés comme de toute façon à mettre à la poubelle, dont rien ne peut être sorti. Enfin, c'est quand même politiquement assez violent. Et que finalement, le discours des JO, pourquoi il a pris autant pour la Seine-Saint-Denis? C'est que finalement, c'était le seul discours politique dans l'espace politicien central. Là, je mets de côté les mouvements militants, les mouvements d'habitants. Mais je veux dire, dans l'espace politique un peu mainstream des élus, finalement, le seul discours qu'ils ont eu à sortir pour... comment sauver, comment aider la Seine-Saint-Denis, ça a été cette vision hyper productiviste, brutaliste des Jeux Olympiques. Et donc, ce truc-là a été à la fois bloqueur, anesthésiant de mobilisation, mais aussi, ça n'a pas créé les conditions propices à une composition de lutte avec des militants syndicaux, des travailleurs sans papier. Donc, ça s'est passé à certains moments. Donc, il y a une mobilisation aujourd'hui de travailleurs sans papier contre les JO, parce que les JO ont tellement mis en avant, enfin, Paris 2024, a tellement mis en avant le fait que ces chantiers étaient vertueux, ces chantiers n'employaient pas de sans-papiers, que dès que les luttes de sans-papiers qui se sont fait jour là jusqu'à présent, il y en a eu quelques-unes, eh ben ont obtenu, en tout cas la promesse, il faudrait vérifier si c'est le cas, de la régularisation des personnes qui se sont fait connaître. Mais n'empêche que dans le squat Unibéton qui a été expulsé, dont on parlait tout à l'heure, il y avait des gens qui travaillaient pour les chantiers olympiques. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans cette... je ne sais pas si c'est une impasse, mais en tout cas, cette grande difficulté du manque d'alternatives en termes d'activité. C'est-à-dire que Saccage a beau tenir un discours hyper précis, argumenté, organiser des rencontres avec les habitants, ou la lutte des jardins d'Aubervilliers a beau avoir au maximum travaillé avec les habitants et habitantes du quartier concerné. Encore une fois, le discours des JO et la promotion des JO prend d'autant plus de place qu'il n'y a pas tellement de politiques alternatives en termes de création d'emplois, d'aménagement de quartiers. Il y a plein d'idées chez les habitants, mais parmi les élus, parmi les personnes en situation de pouvoir mettre en place des politiques urbaines, eh ben, il n'y a pas tellement d'autres projets. Et donc, tant qu'on restera comme ça dans un truc très binaire, en gros, c'est les JO ou rien, eh ben, ça rendra d'autant plus difficile l'émergence de projets alternatifs. Alors qu'en fait, ce que portent les collectifs militants, les collectifs d'habitants, je pense aussi aux habitants du quartier Pleyel, qui est un quartier de Saint-Denis dans lequel quand même une sortie d'autoroute est construite à quelques mètres d'un groupe scolaire de 600 élèves, qui est quand même un des faits les plus choquants d'un point de vue environnemental, enfin écologique, de santé tout simplement, lié à ces JO. Bah, il y a eu des collectifs d'habitants qui se sont mobilisés, qui ont fait des contre-projets, qui étaient hyper précis, qui demandaient sans doute à être retravaillés avec des ingénieurs des ponts, etc., mais qui étaient quand même des vrais contre-projets qui n'ont pas du tout été écoutés. Donc c'est ça aussi la situation, c'est-à-dire que toutes les voies alternatives, pas forcément critiques frontales en disant « on ne veut pas des JO », mais qui disaient « ah bah nous, là, cette voie d'autoroute à côté de l'école, on ne l'accepte pas, on vous propose plutôt de la mettre un peu plus loin », ou la lutte des jardins ouvriers des vertus de dire « bah en fait, le solarium que vous voulez construire sur des jardins ouvriers, vous pouvez le mettre au-dessus de la piscine que vous voulez construire, comme ça, ça épargnera les jardins ». Toutes ces propositions alternatives ont été balayées d'un revers de la main, caricaturées, pas écoutées. Et donc là, encore une fois, enfin, on en retombe à la responsabilité des élus et à leur cécité démocratique, hein, qui ont fait que, eh ben, du coup, forcément, les choses se tendent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les émeutes de l'été dernier, suite à la mort de Naël, tué par un policier, eh ben, les émeutes à Aubervilliers, elles sont passées très très près de la piscine d'entraînement des Jeux Olympiques. Et en fait, c'est forcément, quand les voix de la société ne sont pas écoutées, sont caricaturées et sont méprisées, eh ben, ça tend la situation. Et à la prochaine crise sociale, eh ben, y aura des cibles évidentes qui seront ces aménagements qui ont été imposés aux gens sans consultation. Enfin, c'est un peu désespérant quoi, d'observer cela.
Et alors juste pour peut-être aussi repréciser, parce que vous parlez des policiers, je tiens à vraiment, alors au nom de Saccage, je ne peux pas parler pour tout le monde, enfin, les policiers ne sont pas des personnes avec qui nous pouvons lutter et nous ne ferons aucune intersyndicale ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment important parce que notamment, la lutte contre les JO ne peut être qu'une lutte antiraciste, féministe, antivalidiste. C'est pour ça qu'on fait vraiment attention à repréciser à chaque fois JOP, parce que les paralympiques sont la même merde que les non-paralympiques et apportent les mêmes expulsions de personnes, la même gentrification. Ce ne sera pas bien pour les personnes en situation de handicap non plus, malgré toutes les promesses, donc à vraiment faire attention là-dessus. Et là, en fait, on commence à le voir aussi. Je crois qu'il y avait eu un appel à manifestation de Philippot, si je ne dis pas de bêtises, sur cette histoire de passe sanitaire, quand ils ont commencé à parler de QR code. L'extrême droite peut récupérer ses luttes, et il faut vraiment faire attention. L'extrême droite n'a pas à rester dans nos quartiers, n'a pas lieu de citer dans nos luttes, et certainement pas les policiers. Un des principaux problèmes de la Seine-Saint-Denis, c'est la police. Enfin, il y a une police municipale qui vient de se créer à Saint-Denis. Les débordements, ils sont réguliers. On est quadrillés par les policiers qui sont en moto électrique, qui sont en voiture, qui sont en tout ce que vous voulez. Et s'il y a des émeutes, c'est par la police aussi, à cause de la police. Donc vraiment, enfin, que les policiers fassent grève parce qu'en fait, on ne va pas leur payer leurs heures sup, non, ça ne fait pas partie de nos luttes. Et ça ne le fera jamais partie, parce qu'à chaque fois les policiers font grève, c'est pour demander plus de droits à tuer. On sait quelles sont les revendications de la police. c'est justement, nous, ce qu'on lutte, c'est la militarisation de l'espace. Moi, je l'ai vu, j'habite juste en face du Stade de France. La Coupe du Monde de rugby, c'est vraiment un délire de présence policière. Enfin, on a les flics à cheval, on a la brave qui est en moto, on a l'armée qui est autour, et on peut même pas passer en vélo, en fait. Et on nous demande un justificatif de domicile pour rentrer chez nous. Donc, c'est comment ces quartiers vont être quadrillés par les policiers pendant 3 mois, enfin, 1 mois de compétition, mais ça va sûrement commencer avant, pour le plaisir de quelques personnes qui vont venir à l'autre bout du monde, en fait. Et juste par rapport à ce que tu disais, Jade, je pense qu'effectivement, il y a tout un aspect sur la lutte de l'écologie et ce qui fait que les Alpes prennent un peu plus d'importance. Après, moi, j'essaie d'être positif, de me dire si ça prend aussi cette importance, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail en amont sur 2024, mine de rien. Et on le voit parce que nous, on est quand même beaucoup en contact avec eux. Et en fait, ils reprennent beaucoup nos arguments sur beaucoup de choses. C'est bien justement qu'il y ait ce livre que tu as fait qui sorte, parce qu'on manque énormément de théories, notamment en français, sur les JO. Nous, on a passé énormément de temps à traduire des textes, parce que, par exemple, Jules Boykoff, qui est un des penseurs qui a le plus travaillé là-dessus, aucun de ses livres n'est traduit en français. Et en fait, il faut aller chercher des articles en anglais, les traduire. C'est aussi comment on a une littérature, outre la théorie critique du sport, qui vraiment est très problématique, avec des gens très problématiques, va parler des JO, en fait. On ne peut pas demander aux gens de s'opposer aussi si, en fait, derrière, théoriquement, il n'y a pas des articles, outre des articles de presse.
Pierre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous rejoindre dans la lutte ? Comment ça se passe ? Comment on se joint à vous et aux différents collectifs militants ?
Pour rejoindre SACACH, c'est assez simple. On est assez actifs et sur notre site internet et sur Twitter pour annoncer. On fait régulièrement des réunions publiques et on fait des réunions régulières justement pour accueillir des nouveaux, des nouvelles qui voudraient militer avec nous. On fait des présentations publiques aussi. Il y en aura sûrement une le 6 février, c'est en confirmation, notamment pour soutenir la Bourse du Travail d'Aubervilliers, mais c'est pas encore sûr. Vraiment, nous, on est preneurs de toutes les compétences et de toutes les motivations. Il y a eu justement un intercollectif contre les JO qui s'est créé, qui a fait des actions le 2 décembre. Justement avec différents collectifs. Et l'idée, ça serait justement d'étendre à toute la France. Après, même si nous, on est très contents que des gens nous rejoignent, il faut aussi... faut que la lutte se diffuse, en fait. Parce que même si beaucoup de choses se passent à Paris, ça ne se passera pas qu'à Paris. Il y a la flamme olympique qui arrive à Marseille le 8 mai. En fait, il faut que tout le monde se dise que les JO sont un sujet pour leur territoire. Et vraiment, les JO impactent énormément de territoires en France. Donc, il faut que les différents collectifs, un peu partout... que ça soit à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, à Marseille, et même pas que dans les grosses villes, se disent en fait, nous, on va aller lutter là-dessus, ne serait-ce que par des collages, par des blocages de flamme olympique. Les collectivités payent 180 000 euros le passage de la flamme olympique quand même. Hein. Et minimum, c'est-à-dire que là, ils sont en train de revoir qu'en fait, une fois qu'ils ont payé 180 000 euros, on leur demande des barrières, des histoires de sécurité qu'en fait, ils ne peuvent pas forcément payer. En fait, il faut que tous les collectifs se rendent compte que ça doit être un sujet, il faut que ça soit porté par tout le monde, parce que déjà, arrêter les JO à un niveau... multinationale, internationale, c'est compliqué. Mais nous, même si on demain, on est 4000, 5000, on ne les arrêterait pas à 5000. Donc, il faut que chaque collectif se rende compte que ça doit être un sujet et mobilise les gens là-dessus. Et il y a des manières très simples de lutter. Enfin, je veux dire, les JO ont des sponsors officiels. Si demain, par exemple, les employés de Decathlon ou de Carrefour, pour citer quelqu'un qui est pas mal mis sous les feux de projecteurs en ce moment, font grève en disant, mais en fait, c'est dégueulasse ce qui se passe avec les JO, on est sponsors officiels. On a les mascottes qui viennent de Chine, qui sont vendues chez nous. On n'est pas d'accord, ça aura des répercussions. Parce qu'en fait, derrière, les répercussions sont financières. Un des meilleurs moyens d'affaiblir les JO, c'est que les sponsors se retirent. Alors là, c'est un peu tard pour Paris, mais si on fait en sorte que les sponsors tels que LVMH se disent c'est très mal vu, on ne va peut-être pas aller aux Alpes 2030, ça sera intéressant. Parce qu'en fait, c'est quand même, tout est financé. Coca est sponsor mondial depuis des années, c'est pas pour rien. Typiquement, Coca, ça va être une grande lutte à mener aussi, parce qu'avec le passage de la flamme olympique, il va y avoir des villages Coca qui vont émerger un peu partout. Quand on sait le scandale qu'est Coca sur tous les points de vue, que ce soit social, écologique, il y a aussi de quoi se mobiliser contre cette venue de Coca.
Jade Lingard, je le rappelle, donc le livre Paris 2024, une ville face à la violence olympique, sortira le 26 janvier prochain aux éditions Divergence. Pierre de SACACH, donc on vous retrouve sur plusieurs actions, événements qui sont disponibles sur le site de SACACH 2024. Merci à vous deux d'être venus en studio.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Pensez les luttes est de retour pour une nouvelle saison de mobilisation sociale. Auditeurs, auditrices, on se retrouve désormais une fois par mois. En attendant, retrouvez-nous sur radioparleur.net et sur Instagram @radioparleur. À bientôt.